Version originale, Aligre FM, culture, société, création. Version originale, Patrick, Léon, Émile.
Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Version originale. Comme chaque samedi sur Aligre FM 93.1. Nous parlerons donc ce soir du livre du philosophe Jean-Christophe Godard, « Ce sont d'autres gens ».« Ce sont d'autres gens » paru aux éditions Wide Project. Dans cet ouvrage, Jean-Christophe Godard montre que les sociétés confrontées à la violence coloniale ont, depuis plusieurs siècles, développé un savoir critique du monde occidental. Jean-Christophe Godard sera en lien avec nous juste après l'Afrobeat de Tony Allen. Tony Allen, le titre de ce morceau, c'est African Men sur Aligre FM 93.1. Vous êtes dans Version originale. Le philosophe Jean-Christophe Godard, qui publie donc aux éditions Wild Project, Ce sont d'autres gens, ce sont d'autres gens, contre anthropologie décoloniale du monde blanc. Bonsoir Jean-Christophe Godard.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre accueil.
Bienvenue à l'antenne d'Aligre FM, Jean-Christophe Godard. Vous êtes donc philosophe, professeur à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Depuis plusieurs années maintenant, vous vous consacrez à la critique historique de la philosophie moderne européenne. Dans ce livre, Vous prenez appui sur la pensée de l'anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, du philosophe camerounais Fabien Ebussi Boulaga, du chaman Davi Kopenawa, de l'écrivain congolais Sonny Laboutansi. Vous convoquez donc ces penseurs pour explorer des formes anciennes et contemporaines comprises des anthropologies inversées en Amazonie et en Afrique centrale notamment. Avant d'examiner avec vous, Jean-Christophe Godard, quelques exemples de ces formes d'anthropologie, rappelez-nous en quoi consistent les anthropologies inversées. Comment faut-il comprendre la contre-anthropologie ?
Bon, merci beaucoup. Oui, contre-anthropologie, c'est un peu un pis-aller, un terme qui reste un petit peu vague. Et en fait, on trouve aussi anthropologie inversée, rétro-anthropologie, etc. Bon, ça veut dire une chose très très simple, c'est-à-dire qu'on inverse le sens de l'anthropologie occidentale, européenne, dans le sens où ce ne sont pas cette fois-ci les colonisateurs qui font l'anthropologie des colonisés, dans le contact colonial, mais dans ce même contact, ce sont les colonisés, c'est-à-dire ceux qui voient arriver ces humanités qui ne sont pas d'abord des intrus, mais qui deviennent très très vite des gens qui font intrusion et qui sèment la destruction et la mort, enfin je veux dire dans leur sillage, comment les colonisés à la fois perçoivent mais surtout se rendent intelligibles le différentiel anthropologique des Européens. Voilà. Donc c'est d'abord ce premier sens là qui est très très important à identifier, parce que le retournement ou l'inversion, elle modifie quand même beaucoup la relation elle-même et les termes mêmes. Ce qui caractérise cette anthropologie inversée, la deuxième chose qui est importante, c'est que c'est une anthropologie collective qui mobilise une communauté, souvent un village entier, même si elle a lieu sous la conduite d'un chaman ou d'un initié, mais le chaman dans les sociétés chamaniques, le chaman est celui qui est pour ainsi dire l'expert des altérités, hein, des altérités qui se présentent sur le bord du socius et qui constitue une menace en quelque sorte pour le socius. Donc ce sont des, mais il ne fait jamais ça seul, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment il y a cette mobilisation et sous la forme d'un théâtre corporel, verbal, physique, métaphorique, hein, qui présentifie en quelque sorte, objectifie concrètement dans la vie la plus quotidienne, la plus immédiate, sous toutes ses dimensions, le mode de vie, la forme de vie, je dirais même plus que ça, la forme d'humanité en quelque sorte que représente et qu'impose le colonisateur blanc. Voilà.
Jean-Christophe Godard, nous allons prendre quelques exemples. D'abord, évoquons l'écrivain Sonny Laboutansi. Je rappelle donc qui il est. Il est né donc en 1947 au Congo. Il meurt en 1995. Sonny Laboutansi est romancier, poète, dramaturge. Il a écrit 6 romans ainsi qu'une douzaine de pièces de théâtre. L'un de ses romans les plus célèbres, c'est « La vie et demie ». Dans donc, le chapitre 4 de votre livre, Jean-Christophe Godard, intitulé « Un théâtre Congo de la guérison décoloniale », vous évoquez longuement Sonny Laboutansi. Ce texte donc, lui est consacré. Qu'est-ce qui, alors pour mieux comprendre donc, ce qu'on entend par cette contre-anthropologie, qu'est-ce qui caractérise le théâtre de Sonny Laboutansi ? Quels sont les critères, les forces qui font de ce théâtre une contre-anthropologie décoloniale du monde blanc, comme vous le nommez?
Oui, alors, alors Sonny Laboutancy, effectivement, c'est un grand, grand écrivain, voilà, que j'invite à lire et à découvrir. La caractéristique, alors j'ai passé par une anecdote, en fait, pour qu'on comprenne bien, parce que quand on dit théâtre de Laboutancy, évidemment, on va trouver des pièces qui sont des pièces écrites. On peut même trouver des représentations, des mises en scène, mais il n'y en a pas beaucoup, en réalité. Et je l'évoque dans le livre, puisque le livre est fait aussi beaucoup de tout un ensemble de conversations, une conversation avec un ancien acteur du Roccado Zulu, le Roccado Zulu qui était la compagnie théâtrale fondée par Sonny à Brazzaville, qui me raconte Sonny invitait la troupe des acteurs, et pas seulement la troupe des acteurs, c'est aussi les gens qui étaient là, les gens du quartier, les gens qui accompagnaient, etc. Donc toute une troupe comme ça qui partait en forêt de nuit et à la lumière comme ça de lampes torches pour répéter, on va pas dire répéter, pour jouer, pour accomplir les directions théâtrales que leur donnait Sonny, sous la forme d'un théâtre, donc, qui était un théâtre nocturne de forêt, c'est-à-dire inquiétant, avec les possibles entités présentes, qu'on pouvait susciter, éveiller, réveiller, etc. Il le disait lui-même, c'est-à-dire que les acteurs et les gens étaient eux-mêmes au fond, dans un état, une sorte d'état de transe. Quand il dit il faut jouer ça comme si on était ivre, en fait, ça veut dire il faut être ivre. Dans cette espèce d'ivresse. Et puis, de ce théâtre-là, finalement, il n'y a aucune trace. Parce que quand les acteurs lui demandaient « Quand est-ce que tu nous donnes le texte ?» eh bien, le texte ne venait pas. Et simplement, la pièce était accomplie une fois qu'elle était accomplie de manière purement dans une pure actualité. Donc, ça veut dire que tout le théâtre de Laboutancy, le théâtre écrit qu'on peut voir, qu'on peut lire, en réalité, est comme une espèce de trace archéologique de seconde main, presque, je dirais, de pratiques qui sont, de forêt et des pratiques nocturnes qui mobilisent les forces du lieu, qui mobilisent toutes les relations en quelque sorte constitutives de l'autochtonie, c'est-à-dire qui mobilisent toutes les subjectivités humaines, non humaines, animales, spirituelles, les morts, etc., composent en quelque sorte le ce que j'appelle le cosmos socius, c'est-à-dire le cosmos qui est aussi une société de sociétés, dans lequel se concrétise la vie autochtone. Donc voilà, déjà peut-être un petit peu on a une idée de cela on pense au film de Jean Rouge que beaucoup de gens connaissent, Les Maîtres Fous, parce que Georges Moussy, justement, parce que je parle de Georges Moussy, l'acteur du Roccado Zulu, dans la conversation qu'on avait eue, c'était à un moment donné, il me disait, qu'est-ce que c'est que ce théâtre de la guérison, qu'est-ce que c'est le théâtre que pratiquait Sonny, etc. Et il s'écrit, il me dit, c'est Les Maîtres Fous, c'est ça. Voilà. Alors Les Maîtres Fous, c'est filmé par Jean Rouge. Mais il filme pas tout, parce que à un moment donné, il est quand même un peu inquiet, il va se mettre à l'abri.
Il y a de quoi.
C'est ce théâtre de brousse, ce théâtre de forêt, ce théâtre où on déchaîne, en quelque sorte, on confronte les forces de la technique et de la ville, pour reprendre le théâtre des Maîtres Fous, c'est-à-dire les puissances ou les entités en quelque sorte sorcellaires du monde blanc, du colonialisme, du capitalisme blanc, qui sont métaphorisée en quelque sorte dans l'ordre symbolique de la pensée traditionnelle, hein, donc sous la forme d'entité maléfique, hein, d'entité de divinité en quelque sorte qu'on peut faire descendre, qu'on peut qui viennent chevaucher, qui viennent posséder, etc., hein, et la confrontation de ces entités avec les entités qui sont les entités cosmologiques, hein, de la forêt et du monde complexe, hein, de ces sociétés de sociétés, d'humains, de non-humains, de morts, etc., hein, qui composent le monde traditionnel. Et voilà, et donc c'est ça, hein, le théâtre de Chauny.
Alors on peut prendre un autre exemple, hein, d'une expression de conte anthropologie, c'est l'institution d'une danse, ce qu'on appelle donc dans le chapitre 3, vous en parlez, Jean-Christophe Godard, c'est donc dans le chapitre intitulé « Cargo noir du monde blanc ». C'est donc c'est l'institution d'une danse, une danse qui est créée à l'occasion de la conférence de Brazzaville en 1944. Donc on parlait du théâtre de Sonny Laboutancy, là on vient à une danse. Parlez-nous un peu de ce théâtre N'Gaul.
Alors c'est la danse N'Gaul, hein, c'est danse ça, N'Gaul. Je pense, hein, à quelle vous faites allusion. La danse N'Gaul, c'est-à-dire la danse de Gaulle, hein, de Gaulle, le général de Gaulle. Mmh. Donc là aussi, c'est même chose, hein, c'est quelque chose qui se pratique jusque dans les années 80, hein, qui est une sorte de mise en scène de l'arrivée du général de Gaulle. Alors, c'est ce moment où, l'État français, Vichy, etc., cède la place, au gaullisme, hein, après-guerre. Et donc on met en scène à la fois ce passage-là, hein, parce que c'est le maréchal Pétain qui accueille le général de Gaulle dans ce théâtre-là, mais en même temps on met en scène l'arrivée du blanc, hein, et ça c'est tout à fait important, c'est-à-dire que toutes ces contre-anthropologies sont des contre-anthropologies du contact, ce qui est à chaque fois mis en scène, je l'ai un petit peu dit là tout à l'heure, c'est le contact, c'est la violence du contact. Alors peut-être qu'on y reviendra, parce que cette violence du contact, c'est pas quelque chose qui se fait au XVIe siècle, au XVIIe siècle, etc. Et puis, après, il y a une histoire. Hein, le contact, et la violence du contact, elle est permanente. Hein, comme si le contact avait initié une espèce de temps immobile, hein, où la totalité des relations reste figée, en quelque sorte, dans ce moment primordial du contact. Donc, les contre-anthropologies, à chaque fois, elles peuvent être pratiquées, je sais pas moi, les masques Tamok, par exemple, en Guyane, c'est quelque chose qui se fait encore maintenant, mais ce qu'on performe, c'est le contact avec les premiers Espagnols au XVIe siècle. Hein, donc, la même chose toujours, hein, c'est-à-dire que lorsque on met en scène l'arrivée du général de Gaulle, en fait, on met en scène tout aussi bien l'arrivée des Portugais, hein, c'est toujours la même chose. Bon. Donc c'est un théâtre collectif, on va dresser une sorte de théâtre qu'on va on appelle ça le camp, voilà, qui est une piste de danse, et le général de Gaulle, en arrivant, va à travers son chef d'état-major, va énoncer toute une liste de prescriptions pour instituer une danse de contact. Voilà, justement, c'est ça qui est intéressant. Hein, et cette danse de contact, elle est absolument caractéristique, de la racialisation, c'est-à-dire que il faut lisser les cheveux. Il y a l'idée, évidemment, que les corps sont sales et qu'il faut les laver, les entretenir, etc. Et ce qui est assez saisissant, c'est que l'institution de la danse de contact est vraiment une institution occidentale, c'est-à-dire que il n'y a pas de danse de contact. Les danses traditionnelles ne sont pas des danses de contact. Voilà. Et tout le processus va être un processus qu'on va mettre en scène et on va se rendre intelligible la manière dont, dans le premier contact, a lieu la dissociation raciale du blanc et du noir, la chromatisation, du noir en tant que noir, hein, sa surchromatisation, la déchromatisation du blanc, etc. À chaque fois dans ces contes anthropologiques comme dans celle-là, ce qui est en jeu, c'est de performer théâtralement la totalité, en quelque sorte, de ce qui est généré dans le contact, dans le premier contact, hein, de l'ordre colonial.
Culture, société, création, en version originale, Patrick, Léon Émile.
Toujours en compagnie de Jean-Christophe Godard, qui publie aux éditions Wide Project, Ce sont d'autres gens. Jean-Christophe Godard, j'aimerais que nous restions sur un point. Vous avez donc, c'est très clairement expliqué, donc, ce moment du contact entre ces deux groupes de personnes. Oui. Au moment de la violence de la colonisation. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière. Dans votre livre, vous soulignez bien que la colonisation est une forme, donc, et non, c'est pas une forme, c'est une conversation rompue, une conversation interrompue. Expliquez-nous en quelques mots pourquoi vous insistez sur cet aspect-là. Donc il y a un avant et un après. À quel moment et quelle était cette conversation qui a été interrompue?
Oui, alors... En fait, il faut, pour répondre à cette question, hein, il faut prendre en considération cela, c'est-à-dire que la violence du contact, ce n'est pas simplement le fait que des hommes armés arrivent et prennent possession des lieux, des ressources, des populations, des femmes, etc. La violence du contact, c'est aussi une violence, je dirais, dans l'ordre... métaphysique, des ontologies, c'est-à-dire que ce qui entre en contact, ce sont deux régimes en quelque sorte de rapport au monde, de rapport à l'altérité, hein, d'économie de l'altérité, qui sont proprement incompatibles, totalement incompatibles. Ce qui caractérise le régime de l'économie symbolique de l'altérité africain ou amazonien, c'est de se nourrir du contact. Que ce soit en Amazonie ou que ce soit en Afrique, lorsque les premiers colonisateurs arrivent, ils sont immédiatement interprétés et compris comme des revenants, des morts qui reviennent, donc des ancêtres. Alors qu'ils ne reviennent pas sous la forme d'individus complets, hein, des ancêtres complets, c'est-à-dire un tel, etc., mais comme des composantes animiques, ancestrales, qui ont été dispersées par la mort des ancêtres. Et par conséquent, leur arrivée ou leur retour est la promesse d'un enrichissement d'une sorte de matériau métaphysique, hein, renouvelé pour la formation de nouvelles personnes, pour la composition précisément de nouvelles personnes. Parce que ces anthropologies sont des anthropologies, on va dire, fragiles. C'est-à-dire que les personnes humaines sont des composés complexes d'éléments, animiques, humains, on va dire humains, non humains, des morts, des ancêtres, etc. Bon. Et donc, il n'y a pas d'intériorité en quelque sorte qui se constitue autrement que par la manière de lier entre elles des extériorités, de les intégrer les unes aux autres, etc. Bon. Donc, on va dire les choses comme ça, c'est-à-dire que la disposition première est initiale, c'est celle d'une grande hospitalité, hein, et même d'une grande curiosité, presque, je veux dire, d'un, une espèce de goût, très, voilà, des métaphysiques qui arrivent. Hein. Ah, ces gens-là arrivent, ils sont monothéistes, ils ont telle métaphysique, etc. Le monothéisme lui-même n'est pas rejeté en tant que tel. Après tout, il peut très bien rentrer dans une composition, être une composante de la formation d'une subjectivité, etc. Bon. Alors qu'en face, on a des Européens qui sont le résultat d'une construction très longue, comment dire, de la subjectivité, à travers le Moyen-Âge, hein, au moins depuis le bas Moyen-Âge, mais avant, où on a l'idée précisément de subjectivités individuelles qui sont entièrement formées, complètes, et qui, d'une certaine manière, se génèrent ou s'autogénèrent sans extériorité, sans l'apport, sans la part précisément d'une extériorité cosmologique. On ne va pas rentrer dans le détail, mais par exemple, la théorie augustinienne de la conversion, elle accomplit ça pleinement. Hein, c'est-à-dire que c'est dans un rapport direct et unique, précisément, de la personne à Dieu, sans précisément qu'intervienne le moindre lien, le moindre rapport avec la moindre hiérarchie angélologique, la moindre hiérarchie cosmologique. Donc, d'un côté, on a les Africains et les Amazoniens qui sont, on va dire, des cosmologiques. Hein. Et puis, de l'autre côté, des individus qui arrivent et qui, eux, comment dire, se pensent comme des êtres complets, hein, dont l'individualité ne va pas s'enrichir précisément de l'altérité, mais qui sont, au contraire, foncièrement, qui construisent leur propre identité sur un mode, on va dire, au sens littéral, xénophobe. C'est-à-dire que l'altérité, l'étrangeté, précisément, l'étrangeté, enfin, je veux dire, c'est ce qu'il y a hors d'eux, hein, et c'est ce qui n'est pas eux. Hein, et ne peut pas être eux. Voilà. Donc le choc est très violent. le choc est très très violent, puisque, comment dire, la conversation en quelque sorte est rompue, mais la conversation elle est rompue à partir de, comment dire, de la rupture de l'ordre conversationnel, je dirais, dans lequel sont, que ce soit sur, ça peut aussi bien sur le mode agonistique, sur le mode de la guerre, etc., mais dans lequel sont précisément les populations colonisées qui ont toujours besoin de l'étranger. Hein, bon, il y a un anthropologue américain, Marshall Salins, qui a théorisé cela à travers la théorie du royaume étranger. Ah, c'est-à-dire comment les royaumes autochtones, enfin l'autochtonie en quelque sorte, se préserve toujours précisément par comment dire, l'intégration, l'autochtonisation d'un étranger. Voilà.
Il y a aussi un aspect, si vous le permettez, Jean-Christophe Godard, dans ces contre-anthropologies, dans un certain nombre de ces contre anthropologie, la dimension comique est importante. C'est-à-dire qu'il y a une... Donc, vous parlez de contact. Il y a une force dans le rire qui efface les effets négatifs de la rencontre avec le monde européen, eurocentrique.
Oui. Alors ça, c'est très important parce que, comment dire, bon, cette contre anthropologie, elle est collective, elle interroge, comment dire, la qualité de la vie. Hein, après tout, c'est quelque chose de très très simple. Hein, c'est-à-dire que si on se posait la question, est-ce que le capitalisme, ça vous donne en quelque sorte une vie de meilleure qualité? Voilà. Bah, la réponse serait assez rapide. Hein, voilà. Mais on pose pas cette question. Alors que on est déjà prisonnier et déjà pris dedans au moment. Enfin, je veux dire, où on se la pose. Tandis que la question est posée. Elle fonctionne aussi, la contre-anthropologie, par ingestion de l'entité, et c'est comme ça que j'en viens au comique, comment dire, de l'entité européenne, de l'identité blanche. Hein. Littéralement, c'est ça. Hein, il faut devenir blanc. Ce que fait le chaman.
Aligre FM 93.1.
Le chaman ne peut connaître qu'à condition de subjectiver. Ça, c'est aussi c'est une caractéristique, on va dire, cognitive fondamentale qui marque l'incompatibilité précisément entre ceux qui arrivent et les autochtones. C'est que ceux qui arrivent, comme ils ont un sujet qui est constitué et autoconstitué et qui a une espèce de valeur transcendantale, c'est-à-dire qui détermine lui-même les conditions en quelque sorte de son expérience possible, connaître pour lui, c'est objectiver, c'est transformer en objet. Voilà. La connaissance, que ce soit en Afrique ou en Amazonie, la connaissance est subjectivée. Mmh. C'est se demander, cette chose-là, c'est qui ? Voilà. C'est quel sujet ? C'est quelle subjectivité ? C'est quel type de personne ? Quelle est sa perceptivité ? Quel est sa, son mode de volition, etc. Hein ? Donc, il n'y a pas d'objet. Hein ? On n'a jamais rapport qu'à des sujets. Le monde est saturé, en quelque sorte, de subjectivité. Bon. Donc, même chose, pour connaître le blanc, eh bien, il faut le subjectiver. Or, il n'y a pas d'autre manière de le subjectiver que d'ingérer sa propre personne, sa propre personnitude, en quelque sorte, sa manière d'être personne, de le devenir, de devenir blanc. Pour donner à comprendre ça, un des chamans, notre anthropologue guyanais, Pilima, va voir les évangélistes là, qui viennent de s'installer sur l'autre rive du fleuve, et il leur dit, vous arrivez, mais moi je connais mieux votre Dieu que vous, parce que vous avez simplement le livre. Moi, je l'ai rencontré dans la forêt, le Yolok des Blancs, votre Dieu, et je le suis devenu. Voilà. Et cette dimension-là est vraiment très très importante. Or, voilà, c'est là que j'en viens au rire. C'est qu'à partir du moment où, l'entité blanche, l'entité métaphysique blanche, la force substantielle du blanc est ingérée, eh bien, elle s'avère finalement assez pauvre, assez ridicule. Porteuse de non seulement de beaucoup moins de promesses, mais de promesses risibles par rapport à ce que peut porter comme promesse une entité, n'importe quelle entité de la forêt, n'importe quelle puissance cosmocratique, n'importe quelle, pour reprendre les termes salistes, méta-humain, méta-personne, hein, qui constitue et qui entretiennent l'ordre cosmologique fragile. Hein. Et donc le rire, il vient de cela, c'est-à-dire du ridicule précisément de cette puissance. Je prends un exemple. Kopenawa, à un moment donné, se pose la question de savoir si, par la vision chamanique, c'est-à-dire par le psychotrope chamanique, il va pouvoir faire descendre l'image. Alors c'est très important parce que c'est une connaissance par l'image qui est une image concrète, sensible, etc. L'image du dieu des blancs, hein, l'image du dieu monothéiste. Bon. Comme il fait descendre l'image de toutes les entités cosmologiques qui œuvrent pour perpétuer, entretenir précisément le cosmosus, la forêt, etc. Bon. Et il dit finalement, on a beaucoup de mal, et on y arrive en utilisant de la poudre de Yakoana, c'est le psychotrope, périmé, hein, un peu affaibli. Et ce qu'on voit apparaître, c'est une espèce de vague forme lumineuse, flasque, avec des marques d'écriture. Le comique, hein, c'est-à-dire la surpuissance destructrice, force de mort, d'esclavagisation, de maladie, du blanc qui dispose de la puissance de faire exploser les rochers, etc. Se ramène finalement dans l'ordre symbolique traditionnel ou dans l'ordre de la cosmologie traditionnelle à quelque chose de ridicule. J'évoque une contre-anthropologie Paumari qui est liée à un rite de passage des jeunes filles. de maturité, de puberté, avec, comment dire, c'est, le blanc arrive, alors c'est une espèce de marionnette avec un énorme sexe en bois dressé qui fait 3 mètres de long, etc., et qui arrive avec des cadeaux qui sont des espèces de boules machin, comment dire, des peluches éventrées, des canettes vides, etc. Enfin, rien vraiment d'attrayant. Et les jeunes filles cassent la gueule, enfin, je veux dire, en riant dans un éclat de rire à cette marionnette. Hein. C'est-à-dire, voilà, la surpuissance est ridicule du point de vue, précisément, de ce qui compte, la qualité de la vie, la permanence du cosmos, la restauration de la personne, la guérison, comment dire, des maladies, etc. Hein.
Jean-Christophe Godard, j'aimerais aussi que nous revenions un petit peu à aujourd'hui. Bien sûr, ces contes anthropologiques concernent bien sûr le contemporain. Dans quelle mesure les contes anthropologiques décoloniales que vous avez examinés, dont on parle maintenant justement, dans votre livre, peuvent être utiles aux sociétés postcoloniales aujourd'hui?
Oui, alors, d'abord, elles sont utiles à toutes les sociétés postcoloniales au sens, littéral du terme, c'est-à-dire les sociétés qui sont issues de la colonisation, c'est-à-dire en fait les sociétés, colonisées, hein, anciennement colonisées, mais bon, est-ce que la postcolonie est vraiment la postcolonie ou est-ce que c'est une continuation sous des formes d'ailleurs
différentes,
pas tant renouvelées que cela, enfin je veux dire de la colonisation.
Mais vaste question.
Ces contes anthropologiques, de toute manière, toutes elles prennent sens dans une idée postcoloniale, c'est-à-dire l'idée que même si elles sont la métaphorisation du contact active, à la fois cognitive et expérimentale, critique, même si elles sont cette dimension-là, elles se projettent toujours dans un futur, c'est-à-dire dans un poste, dans un après la colonie. L'éclat de rire dont on parlait tout à l'heure signifie ça, c'est-à-dire finalement, cette puissance-là est une puissance redoutable, mortel, létal, mais ridicule, risible, du point de vue de ce qu'exige la vie et ce qu'exige, la perpétuation et l'entretien précisément d'une anthropologie, d'une cosmologie fragile. Bon, ça voilà, ça, je l'ai dit. Donc, il y a toujours une dimension, d'utilité postcoloniale. C'est-à-dire c'est la manière dont on va apprendre à vivre avec, à résister à et à anticiper un futur sans. Ça c'est vraiment fondamental de le penser. Alors après il y a la question parce que les sociétés postcoloniales, ce sont aussi nos sociétés, les sociétés européennes, parce que l'espace colonial, en fait, c'est un espace qui est constitué par la colonisation, dans les rapports, les structures sont foncièrement déterminées, par la colonisation. Donc c'est le cas aussi de nos sociétés. L'apport, alors là, c'est presque pour répondre à la question, moi, pourquoi j'écris ce bouquin, pourquoi je m'intéresse à ça, pourquoi je communique ça, c'est ça la question, puisque évidemment, le livre, là, il est lu, par des colonisateurs.
Et, en grande partie.
Alors, ça, cette dimension-là, aussi, qui est une dimension, en quelque sorte, dépressive. Il s'agit de déprécier, de dégrader, de déprimer en quelque sorte la puissance épistémique comment dire, européenne. Et de montrer en quelque sorte qu'il y a des capacités critiques qui ont été mobilisées, qui sont mobilisées, comment dire, par les collectifs, qui sont très très supérieurs en efficience critique, à la fois sur le plan théorique, et en efficience critique par rapport à ce que, comment dire, les épistémologies, les théories, les savoirs européens, y compris les savoirs critiques, peuvent produire précisément. Et ça, ça c'est vraiment très très important parce que, comment dire, il est très très difficile, enfin je veux dire pour des savoirs critiques européens, autocritiques, on va dire, de se débarrasser d'un certain nombre de conditions épistémiques fondamentales comme comment dire la valeur de l'institution scientifique, le primat du savoir sous sa forme scripturaire, de l'économie scripturaire du savoir, de l'individualisation précisément de la pensée, voilà, et puis des conditions métaphysiques plus profondes, hein, qui sont celles comment dire, du monothéisme, de ses eschatologies, etc. Hein, voilà. Je prends juste un exemple, quelque chose de tout à fait remarquable, c'est-à-dire chez Kopenawa, on ne s'imagine pas, enfin je veux dire, la puissance intellectuelle, enfin je veux dire, de ce penseur chaman Yanomami. Et ça permet de revenir aussi sur le rire et la dérision. Le dieu monothéiste est identifié dans la cosmologie Yanomami à un dieu décepteur, trompeur, etc., qui passe son temps à introduire du chaos, là où le dieu créateur, Omama, lui, introduit toujours de l'ordre cosmologique. Mmh. Pas de l'ordre figé, hein, de l'ordre à faire, de l'ordre à entretenir, de l'ordre qui mobilise, enfin, je veux dire, des forces, etc. Ce qui caractérise, comment dire, ce dieu monothéiste, c'est de mal s'occuper. Alors, il dit, oui, Omama, le dieu créateur, il a des chapiris. Les chapiris, ce sont, on va dire, des esprits auxiliaires, je ne sais pas comment, difficile de dire, ce sont des divinités, des entités qui sont des entités ancestrales et qui sont des entités cosmiques qui sont en un nombre infini, une myriade, hein, chacune étant différente de l'autre. Hein, lorsque le chaman les convoque, chacune de ces entités, chacun de ces chapiris, comment dire, a une parure unique, chante comment dire, une mélodie unique, hein, dans une langue unique, etc. Et ils arrivent par milliers, dizaines de milliers, enfin je veux dire, voilà, une infinité. Bon. Donc, Kopenawa dit ce truc très juste, il dit le problème du dieu monothéiste, hein, théocie, le dieu des blancs, c'est qu'il s'occupait mal de ses chapiris. Il s'occupait mal de ses chapiris, et il dit, oui, c'est ce que les Blancs appellent des anges. Par conséquent, les chapiris, comment dire, du dieu monothéiste, sont venus voir Obama, parce que Obama, lui, les entretenait, les cultivait, etc. Et là, le dieu des Blancs est devenu jaloux, furieux, et il a tué, comment dire, le dieu Omama, le dieu créateur Yanomami. Et ça, c'est d'une justesse, d'une vérité théologique, mais absolument inouïe, parce que ce qui s'est passé, effectivement, en Europe, dans le mouvement de la métaphysique européenne, ça a été ça. Ça a été, précisément, de réduire la part de l'angélologie pour laisser, en quelque sorte, l'individu seul face à son dieu. Et face à un dieu qui est un dieu unique. Et donc, ce que dit là Kopenawa, c'est inouï. On se dit, mais c'est pas possible. Il a étudié la théologie européenne, enfin toute l'histoire médiévale qui conduit jusque, comment dire, au bas Moyen Âge et aux formes modernes. Enfin, je veux dire, c'est voilà. Et voilà. Donc, il y a une Il y a une puissance d'un savoir non scripturaire, d'un savoir non académique sur l'identité anthropologique, le différentiel anthropologique des Blancs, qui est tout à fait pertinent et qui est très très fort, très très puissant d'un point de vue critique.
C'est ça que je... Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Une remarque pour finir, Jean-Christophe Godard. Dans ce livre, votre livre porte à découvrir ces anthropologues, philosophes, qui sont dans cette démarche de anthropologie. C'est vraiment une grande ouverture sur cette approche. Anthropologique. Et dans le livre, on sent que vous êtes en conversation. On sent vraiment la force de la conversation, qui ont construit ce texte. Et pour finir, je vais vous poser une dernière question. Pour quelle raison aviez-vous fait le choix de mettre des photos dans votre livre, Jean-Christophe Godard ?
Ah, c'est la collection qui veut ça. Mais moi, j'en suis très, très content. Et je pense que c'est important quand on parle de gens avec qui on est en conversation, de montrer aussi les gens de quoi on parle, parce que c'est des choses il y a Pilima, il y a le fameux plongeoir de Pilima où, devenu le dieu des Blancs, il initie son village à sauter dans le vide. Il y a cette magnifique photo d'Eboussi en train de parler avec toute la vivacité et l'intelligence qui le caractérisait. Hein. J'ai eu le bonheur de le rencontrer. On voit aussi le masque Tamok dont j'ai parlé, David Kopenawa. Et puis les photos qui sont des photos assez rares en fait, hein, aussi, parce qu'il y a ça aussi dans les photos. Des photos du Rocado Zulu, de ces représentations. Là, c'était la Kimpa Vita, la pièce intitulée Kimpa Vita, que faisait jouer Sonny à sa troupe, et qui n'a jamais donné lieu à un texte, qui a été répété, joué, mais parce que on revient à l'essentiel de ces théâtres anthropologiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir du sens pour nous du point de vue cognitif, mais c'est surtout des théâtres de guérison. C'est-à-dire que à partir du moment où la Kimpa Vita, la pièce, hein, on voit les photos, est jouée, et où les gens, l'effet thérapeutique est acquis, alors, pourquoi l'écrire ? Pour qui ? Pourquoi l'écrire pour qui ? Et ça, Sony se situe sur une frontière, évidemment. Il faut l'écrire pour les Blancs. C'est pas pour ceux qui se guérissent par ce théâtre-là, mais pour les Blancs, pourquoi faire ? Pour introduire, comme le dit le grand penseur Quilombola, des Quilombo brésiliens, des Gobispo, pour introduire chez les Blancs des mots, des images, dont ils vont faire des concepts, peut-être, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer à leur propre machine, en quelque sorte, cognitive, et qui va peut-être un peu gripper la machine, qui va la déprimer ou la dégrader, ou la, en tout cas, la rendre plus inoffensive. C'est ça l'idée.
Merci Jean-Christophe Godard. Je rappelle donc le titre de votre livre. Hein. Merci encore d'être venu à l'antenne d'Aligre FM. Ce sont d'autres gens, compte anthropologie décoloniale du monde blanc, c'est aux éditions Wide Project. Merci infiniment.
Mais c'est moi qui vous remercie infiniment de votre accueil. Et voilà, merci beaucoup.
À bientôt, bonne soirée.
À bientôt, bonsoir.
Toute la puissance du groupe Akio dans ce titre, déboulé sur Aligre FM 93.1. Vous êtes dans version originale. Je rappelle que nous étions en entretien avec Jean-Christophe Godard, le philosophe, qui publie aux éditions Wild Project « Ce sont d'autres gens ». Un très bon livre que je vous recommande à mes auditeurs et à mes auditrices. Je vous remercie de nous avoir suivis. À la réalisation technique ce soir, Armand Gury et René Poussin. Merci beaucoup. Je vous laisse en compagnie de Dancehall Reggae Vibes. Puis à 22h30 avec Audiométrique. Bon week-end, bonne soirée, à la semaine prochaine.
Yes, I am. I'm here, comme dans des places. Pour le 7-3. Ruben on a yon. Big respect. Rajaman, please the song. Nous bon que ça. Listen, c'est bien ça.
Je peux pas rester assis devant ma télé. Je peux plus les voir. Ces politiciens qui nous racontent toujours des histoires. Mais pourquoi dans la vie toujours les mêmes à souffrir? Mais pourquoi dans la vie toujours les mêmes à courir? Toujours des histoires, la crise c'est des histoires, on vit pas bien c'est pas des histoires, à force de dire c'est pas mes histoires, on accélère la fin de l'histoire. Ras-le-bol, 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 y'en a ras-le-bol.
pas rester assis devant ma télé. Je peux plus les voir, ces politiciens qui nous racontent toujours des histoires. Mais pourquoi dans la vie toujours les mêmes à souffrir? Mais pourquoi dans la vie toujours les mêmes à courir?
Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol.
Il y en a.
Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol.
On en a.
Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol.
Il y en a.
Ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol.
Patrick, Léon Émile.
Yeah. Yeah. Yeah.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.